BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on a des marchés qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire pour l'instant à une escalade du côté du Proche-Orient, la Bourse de Paris. Vous venez de le suivre en légère hausse ce soir, détente sur les cours du pétrole. On va aller à Tel Aviv et puis on va bien sûr parler largement ce soir de tout cela sur BFM Business. Emmanuel Macron, très enthousiaste lui ce matin sur BFM TV à 100 jours des Jeux Olympiques avec ce petit message adressé aux syndicats. Il veut une trêve olympique pendant ces Jeux. On parlera de tout ça avec nos experts bien sûr qui arrivent dans un quart d'heure. Avec eux, on parlera aussi du gouvernement qui veut simplifier notre feuille des payes. 55 lignes aujourd'hui. Et puis on parlera de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, dont les actionnaires doivent voter demain pour ou contre sa rémunération, qui fait polémique. Voilà le programme, et auparavant, dans un quart d'heure, c'est Patrick Sayer, le président du tribunal de commerce de Paris, qui sera l'invité d'Eddy Chevrillon. Voilà le programme non exhaustif. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc c'est la grande question, quelle forme va prendre la riposte d'Israël à l'attaque massive de drones et de missiles iraniens ce week-end? Benjamin Netanyahou a réuni une nouvelle fois son cabinet de guerre tout à l'heure. Bonsoir Igor Saïri, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv. Quelles sont les pistes sur la table, Igor?
Écoutez, il n'y en a pas une précise en réalité, car ce nouveau cabinet de guerre, le troisième depuis cette attaque massive iranienne, n'a pas donné de solution très précise. Et d'après la presse israélienne, une quatrième réunion serait prévue demain. En réalité, il n'est pas question de savoir s'il va y avoir riposte, mais plutôt de la question du tempo et de l'intensité de cette riposte. En réalité, il y a trois scénarios sur la table. Le premier scénario, c'est peut-être la solution la plus brutale et la plus risquée, car elle pourrait coûter la vie à des civils et elle pourrait engendrer une nouvelle riposte iranienne. Il s'agirait d'attaquer depuis le territoire israélien des infrastructures militaires iraniennes de type base navale ou base aérienne. Le deuxième scénario, ce serait plutôt de s'en prendre aux proxys. Ce sont les relais iraniens. On pense évidemment au Hezbollah dans le sud du Liban. On pense également aux milices chiites syriennes ou encore aux Houthis au Yémen qui sont par ailleurs très actifs dans la mer Rouge, notamment contre des bateaux israéliens. Et puis la troisième solution, c'est celle qui est préconisée, souhaitée par la communauté internationale, c'est de considérer qu'Israël a gagné avec sa réponse défensive contre l'Iran, puisqu'on le rappelle, d'après Tsahal, 99% des projectiles iraniens ont été interceptés par le système de défense israélien et par l'aide des alliés comme la Jordanie, la France, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis.
Merci beaucoup Igor Saïri, donc en direct de Tel Aviv pour BFM Business. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir.
On le disait, pour l'instant, ça ne s'emballe pas du côté des prix de l'énergie, ça s'est même un petit peu détendu du côté du pétrole. On est en dessous des $90 sur le baril de Brent ce soir. Peut-être parce qu'au fond, l'Iran n'est pas un acteur majeur sur l'ensemble de ces marchés, finalement, Mathieu. Hein.
Oui, ça s'est un petit peu emballé vendredi, effectivement. Et là, aujourd'hui, ça a été assez calme. D'abord, parce qu'il n'y a pas de menace directe de fermeture du détroit d'Ormuz, vous savez, qui ferme le golfe Persique, hein, et par lequel transite le pétrole venant du Koweït, d'Irak, d'Arabie Saoudite, et donc les premiers producteurs, et d'Iran, évidemment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Iran ne menace pas de le fermer. Alors, il y a eu, effectivement, l'arrêt d'un pétrolier lié à Israël. Mais pour le moment, c'est contenu. Et puis, effectivement, sur le marché, en tout cas, de l'énergie, l'Iran reste le huitième producteur de pétrole. Hein, derrière, évidemment, les deux grands géants que sont les États-Unis et l'Arabie Saoudite, plutôt évidemment hostile à l'Iran. Donc, ces deux grands pays de l'OPEP, ces deux leaders, tiennent le marché. Et même une offensive forte, ou en tout cas une déstabilisation forte de l'Iran, en tout cas, ne prend pas le risque de faire bouger le marché. C'est un peu différent sur le marché du gaz. Vous savez que l'Iran est le troisième producteur de gaz au monde, derrière les États-Unis et la Russie. Mais ça n'impacte pas réellement les prix du gaz. Hein, d'abord parce qu'il y a des prix par région, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Chaque région a finalement son producteur qui le tient. Et on reste sur effectivement les États-Unis et la Russie qui sont des grands pays producteurs. Et l'Iran consomme énormément pour sa consommation domestique, consomme énormément du gaz qu'elle produit. Donc là encore, peu d'impact du coup sur les autres pays. Puis vous savez, depuis la crise, depuis la guerre en Ukraine et la crise énergétique liée à cela, le marché du gaz s'est beaucoup développé avec le GNL, le gaz naturel liquéfié. Oui. Et du coup, là, vous faites d'entrée d'autres acteurs mondiaux comme le Qatar et l'Australie. Donc ce marché est beaucoup plus finalement diversifié qu'il ne l'était auparavant.
D'où l'inquiétude, enfin la relative inquiétude ce soir des marchés énergétiques depuis quelques heures. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. L'autre question des prochaines heures, des prochains jours, c'est de savoir, en tout cas Israël l'a demandé hier soir aux Nations Unies, si de nouvelles sanctions internationales pourraient être prises contre l'Iran. Nouvelles sanctions en plus de toutes celles qui s'accumulent depuis déjà plus d'une quarantaine d'années. Astrée Olivier.
D'abord, l'embargo sur les armes. Un dispositif mis en place il y a 40 ans pour la première fois par les États-Unis. Il interdit la vente d'armes et d'équipements militaires lourds. L'année dernière, l'embargo a été renforcé après la découverte d'armes iraniennes utilisées par la Russie en Ukraine. Les pays de l'Union européenne n'ont donc plus le droit d'exporter des composants servant à la fabrication de drones. Le gel des avoirs de la Banque centrale iranienne est un second dispositif de sanctions. L'accès au réseau interbancaire international SWIFT leur est interdit et près de 2 milliards de dollars d'actifs iraniens sont bloqués, des mesures financières qui s'étendent aux personnes et entités responsables de violations des droits humains. Enfin, l'embargo occidental sur le pétrole iranien est un dispositif encore maintenu aujourd'hui. Il est élargi à plusieurs secteurs énergétiques, gaz naturel, produits pétrochimiques et même métaux précieux utilisés dans certains équipements navals. L'Iran qui s'appuie largement aujourd'hui sur la Russie et la Chine pour l'exportation de ses hydrocarbures.
Voilà donc pour ce conflit au Proche-Orient. On viendra bien sûr sur toutes ces questions avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. 18h05 dans l'actualité. Onde de choc chez Tesla d'après Reuters. Tesla pourrait supprimer 10% de ses effectifs mondiaux. C'est Elon Musk lui-même qui le dit dans une note que nos confrères internes ont pu consulter. D'après le dernier rapport annuel, le groupe employait un peu plus de 140 000 personnes à travers le monde à la fin de l'année dernière. Les États-Unis appellent Samsung en renfort pour venir construire chez eux des usines de puces électroniques. L'administration Biden va offrir aux Coréens jusqu'à 6,4 milliards de dollars de subventions pour s'implanter au Texas, ce qui, d'après l'administration américaine, pourrait créer quelques 20 000 emplois sur place. En France, le gouvernement qui continue de chercher des économies un peu partout, il envisage clairement de supprimer, à partir du 1er mai, la prime, vous savez, qui est accordée en cas d'embauche dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Prime qui pourrait aller jusqu'à 6 000 euros. Et puis, demain, Assemblée Générale des actionnaires très attendus chez Stellantis. Les actionnaires vont devoir se prononcer pour ou contre la rémunération de Carlos Tavares, qui pourrait atteindre jusqu'à 36,5 millions d'euros sur 2023. C'est trop, disait ce matin le patron de l'agence de conseil Proxinvest, Charles Pinel, qui a un petit message à faire passer à Carlos Tavares. Écoutez.
Faites attention. Vous êtes responsable aussi de la cohésion au sein de votre société et même un peu plus largement, vous êtes responsable aussi de la cohésion, un peu du système capitaliste en quelque sorte. Ce sont des données qui sont publiques, qui sont voilà, tout le monde est au courant de ces montants. Et à partir de là, je pense vraiment de la responsabilité des dirigeants de faire attention. Après, ça fait le boule de neige et ensuite les gens disent, oh là, on va pas parler de dirigeants, d'ailleurs, on va parler de patron et ça donne l'image d'un patron qui gagne beaucoup d'argent comparé à ses employés. Donc c'est là où il est en responsabilité sociale.
Voilà le patron de l'agence Proxinvest ce matin sur BFM Business. Petit message passé à Carlos Tavares, 18h07. On va sur les marchés, justement. Les marchés, Aude Kersulec, donc, depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. Bonsoir Aude, des marchés qui, pour l'instant, ne s'inquiètent pas trop des derniers événements du côté du Proche-Orient. Hein.
Oui, c'est un bon signal que nous envoient les marchés effectivement ce soir puisqu'on monte à la clôture de 0,4%, même si pendant la journée on est monté encore plus fort hein, parce que c'était les 1% de hausse qu'on dépassait. Alors les marchés qui ne croient pas au risque d'escalade entre l'Iran et Israël, les appels à la retenue ont été attendus. Le pétrole baissait également et alors finalement si ça s'est calmé en clôture et on n'a pas monté aussi fort que pendant la journée, c'est parce que c'est pas à cause de la géopolitique. critiques. C'est à cause d'un indicateur américain, les ventes au détail, qui sont ressorties, encore une fois, très, très vaillantes. Ça vient nous rappeler qu'il va être difficile pour la Réserve fédérale de baisser ses taux avant l'été et encore aussi avant l'élection. Du coup, ce sont les taux obligataires qui montent en flèche, 4,64% pour le 10 ans américain et même proche de 5% pour le 2 ans. Le pétrole qui baisse, c'est vrai que ça a fait baisser aussi Total Energy sur notre CAC 40. Société Générale aussi qui perdait 3% dans des prises de bénéfices, tandis que Stellantis, qui va tenir son AG demain, vous en avez parlé, bien sûr, performait le CAC 40 avec une hausse de 2,4%. Donc voilà, le CAC 40 qui se reprend après une baisse de 0,6% la semaine dernière. Des marchés qui sont pour le moment hermétiques finalement à ce qui se passe dans la géopolitique. Et donc un CAC 40 qui finit ce soir à 8045 points.
Merci beaucoup, Oudekar Soulek. On regarde ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. On est légèrement dans le vert sur les indices américains. Le Dow Jones qui grappille 0,4%, 38 149 points. Et puis l'indice Nasdaq en hausse de 0,13%, 16 196, tout ça à la mi-séance. 18h09, le président du tribunal de commerce de Paris, Patrick Sayer, est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois celui qui est nommé président du tribunal de commerce de Paris depuis tout juste 2 mois. Bonsoir Patrick Sayer.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Je crois que c'est la première fois du reste que vous exprimez en tant que président du tribunal de commerce de Paris. Il faut dire qu'il y a pas mal d'actualités, notamment sur les défaillances. Il y a quelques gros dossiers, quelques grosses restructurations, genre casino, Orpea, que vous gérez, que vous managez d'une manière ou d'une autre. Vous nous direz comment. Et puis vous nous dévoilez un peu les chiffres sur le premier trimestre 2024. On a vu les chiffres du cabinet Altares, c'était la semaine dernière, qui montraient que les défaillances d'entreprises étaient au plus haut, mais ça c'est sur l'ensemble de la France. Évidemment, vous, vous êtes à Paris, c'est là où il y a le plus d'entreprises. Vous faites concurrence avec Nanterre, non? Où est-ce qu'il y a le plus d'entreprises?
Le premier tribunal, par le nombre de ses juges et le nombre de ses décisions, c'est le tribunal de commerce de Paris. Oui. On a à peu près 5% des juges français qui, je le rappelle, sont tous des juges bénévoles. C'est important de le souligner. Ils rendent un service.
Et au total, vous gérez combien d'entreprises?
Alors, il faut savoir que le tribunal de commerce de Paris rend, avec ses 180 juges, à peu près 60 000 décisions par an. On ne s'en rend pas compte. C'est absolument considérable. Il y a les deux tiers de l'activité qui sont une activité contentieuse. Ce sont les litiges entre commerçants, qui impliquent un commerçant. Et un tiers, ce sont ce qu'on appelle le traitement des difficultés des entreprises. C'est-à-dire à la fois la partie amiable, puis, le cas échéant, la partie procédure collective, celle dont on parle le plus, parce que c'est la plus visible, les procédures amiables étant confidentielles.
Lorsqu'on regarde les chiffres d'Altares, donc au plus haut depuis 9 ans, il y avait nombre de défaillances d'entreprises, c'était 17 088 procédures qui étaient ouvertes, mais au total, c'était plus de 60 000 défaillances d'entreprises. Si on regarde avec le focus, les chiffres que vous venez tout juste d'avoir, merci en tous les cas de nous les donner, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous observez?
Alors, il faut savoir que les chiffres que nous avons, qu'ils soient sur le plan national ou qu'ils soient sur le plan parisien, ils sont notamment le reflet de ceux qui ouvrent ou ferment le robinet des procédures collectives. Et celui qui en particulier ouvre ou ferme le robinet des procédures collectives, c'est évidemment l'État. L'État a été particulièrement accommodant pendant toutes les années Covid, puisque l'URSSAF et où les impôts ne venaient plus en assignation, en redressement judiciaire ou en assignation, en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, ils sont revenus, effectivement, et ça a expliqué, et ça continue d'expliquer, si je veux dire, ce phénomène de rattrapage continue assez largement l'explication du pourquoi ça a fortement augmenté et pourquoi on retrouve aujourd'hui des niveaux qui sont des niveaux pré-Covid.
On va rentrer dans l'État, bien sûr, mais quelle est la principale cause de défaillance d'entreprise? Est-ce que c'est l'URSSAF? Est-ce que ce sont les impôts? Ou ce sont tout simplement le business qui n'est pas au rendez-vous ?
Alors, on combine évidemment tout. Ouais. On a une conjoncture qui est quand même compliquée. Hein. Il faut pas se leurrer. On a vu, vous parliez de certaines entreprises, on a vu le secteur de la distribution souffrir. Et l'étude à laquelle vous faites référence, l'étude Altares, elle reflétait particulièrement le fait qu'au sein de la distribution, il y a certains secteurs comme celui de l'habillement qui sont des secteurs qui continuent de souffrir. Et on a, et ça c'est dommage parce que je pense que ça a été peut-être une occasion manquée, on a globalement le secteur de la construction, le secteur de l'immobilier qui souffre. On a vu pour la première fois des défaillances de notaires. C'était quelque chose, enfin, on imaginait dans l'inconscient collectif, un notaire, ça peut pas se mettre en situation difficile. Ben si, lorsque l'office notarial grossit et que tout d'un coup les transactions baissent, aussi bien sur le plan des logements que sur le plan des bureaux, on arrive à des situations qui sont celles-ci. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose à faire pour l'emploi au sein du secteur immobilier, parce que derrière ces difficultés, ce sont des pans entiers de l'économie qui sont concernés.
Vous me direz, c'est ce qui arrive à l'État, hein, enfin aux finances publiques françaises, hein, qui c'est un dérapage de 20 milliards, ce qui est absolument colossal, c'est qu'en fait, ils ont complètement sous-estimé l'impact de la baisse des transactions immobilières et de ce que ça rapporte à l'État. Donc, comme quoi, les entreprises, c'est aussi, ou les notaires, un peu la même chose. Alors, lorsqu'on regarde les premiers signaux, y a un point qui est assez frappant, c'est qu'on regarde le nombre de contentieux, pardon, dans vos chiffres, il évolue pas trop. En revanche, le nombre de procédures préventives, elles flambent sur un an. Comment vous expliquez ça ?
Alors ça, c'est en réalité, on s'en félicite.
Ah bon ?
Mais oui, on s'en félicite parce que pendant trop longtemps, les entreprises, je vous le disais, hein, le tribunal, c'est 180 juges totalement bénévoles. Ouais. Qui sortent des écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et un bon tiers aussi qui a des études très supérieures en droit. Bon. Ces gens-là, parfaitement formés en droit, avec l'appui de l'ENM, sont là à disposition des entreprises. Mmh. Et notamment, ils offrent aux entreprises ce que nous appelons l'amiable. Nous sommes non seulement contentieux, mais aussi dans le traitement des difficultés des entreprises, très attachés à favoriser l'amiable. C'est quelque chose qui a été souhaité par le garde des Sceaux et que nous avions déjà dans notre logiciel. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises vont plus naturellement se tourner vers un juge du tribunal. Le tribunal, c'est pas on voit ce mot tribunal qui fait peur,
oui, tout de suite,
dans l'imaginaire collectif. On se dit, je vais être jugé, je vais être sanctionné, je vais être condamné. Ben, c'est pas simplement ça, le tribunal. Le tribunal, ce sont des hommes et des femmes qui sont là pour recevoir des entreprises dans des procédures amiables et éventuellement leur faire prendre conscience des difficultés qu'ils ne réalisent pas encore complètement.
Mais si les procédures préventives, elles flambent sur un an, ça c'est clair, on vient de le voir, les procédures de sauvegarde aussi. Donc, qu'est-ce qui décide en fait
Vous avez plusieurs petits tiroirs. Mmh. On a un premier tiroir, c'est ce qu'on appelle la prévention-détection. Là, on utilise toute une série de signaux faibles qui nous sont donnés notamment par les greffes et le système infogreffe qui fonctionne remarquablement et qu'on vient de le souligner. Ces signaux faibles nous disent telle ou telle entreprise présente une difficulté, soit qu'elle n'a pas déposé ses comptes depuis 3 ans, soit que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Je ne rentre pas dans des détails trop techniques. Mais nous avons des signaux faibles. À partir de ces signaux faibles, nous invitons, c'est une invitation, c'est pas une convocation, nous invitons les dirigeants à venir nous parler. Nous les aidons.
Et là, qu'est-ce que vous observez là, pendant ce premier trimestre, donc ?
Il n'y a pas d'aggravation sur cette partie-là. Il n'y a pas d'aggravation sur cette partie-là. Il y a une autre partie que nous appelons la prévention-traitement. La prévention-traitement, la boîte à outils française est assez remarquable, il faut bien le dire. La prévention-traitement, ce sont deux systèmes, l'un qu'on appelle le mandat ad hoc et l'autre la conciliation, qui permet à une entreprise, de façon confidentielle, à commencer à traiter de ses difficultés avec ses créanciers ou certains de ses créanciers de façon, effectivement, encore une fois, complètement confidentielle, sous l'égide d'un conciliateur ou d'un mandataire. Pendant longtemps, on a cru que cette procédure était très coûteuse. En réalité, aujourd'hui, le coût de cette procédure, le coût des mandataires, le coût des conciliateurs, les juges, encore une fois, ils sont gratuits. Le coût des mandataires, le coût des conciliateurs a baissé.
C'est pas gratuit, oui.
Non, il a baissé de façon très significative, de sorte que beaucoup plus d'entreprises plus modestes s'ouvre aujourd'hui vers ce qu'on appelle les procédures amiables.
Oui.
J'en termine, excusez-moi. Et ce faisant, certaines procédures amiables, eh ben, elles sortent par un accord qui est trouvé de la procédure amiable. Dans certains cas, il y a besoin de passer un certain laps de temps ou un court laps de temps dans une procédure dite collective pour embrasser l'ensemble des créanciers.
Avant de parler de la liquidation, parce que là aussi on voit une explosion des liquidations. Là, sur c'est tout ce qui est préventif, discussion à l'amiable, quels sont, un, les secteurs les plus touchés et les tailles d'entreprises? Parce que, encore une fois, il y a vraiment des gros dossiers sur la table. Est-ce que vous en avez encore d'autres que nous, on ne connaît pas?
C'est toujours très difficile à partir de quelques dossiers d'essayer de faire des généralités. On est effectivement. On peut être inquiet, mais sans être trop inquiet. C'est-à-dire qu'on est dans le rythme qu'on a observé au dernier semestre particulièrement au dernier trimestre 2023. Mmh. Il n'y a pas, par rapport au dernier trimestre 2023, une accélération. En revanche, comme il y avait un effet de base qui était plus faible au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2024, on voit là, si j'ose dire, quand on regarde sur 12 mois glissants, qu'on regarde de trimestre à trimestre, on voit là une augmentation. Mais qu'il s'agisse de termes de secteur, qu'il s'agisse de taille d'entreprise...
Il n'y a pas plus sur l'immobilier, la construction,
Les
hôteliers...
Il y a toujours l'immobilier et la construction au sens large. Il y a toujours la distribution et le textile n'est pas complètement sorti d'affaires. Mais on le voit bien avec des choses importées qui arrivent par Internet à des prix défiant toute concurrence. Et on a toujours encore ce secteur de la santé qui est un secteur où des services liés à la santé, y compris les pharmacies, qui n'est pas un secteur qui est complètement tiré d'affaires non plus.
Pour vous, s'il fallait... Je vous posais tout à l'heure, Patrick Soyer, la question de quels étaient un peu à l'origine, si c'était l'État, si c'était l'URSSAF. Est-ce que c'est aussi, on a beaucoup dit, même sur ce plateau, que les PGE, les fameux plans qui ont été mis en place au moment de la Covid, ça provoquait beaucoup de défaillances d'entreprises. Est-ce que vous l'observez ou pas, ou en tous les cas de mise en difficulté d'entreprises?
Alors vous touchez là un très bon point que j'avais fait observer à certains et que l'on retrouve très souvent. En réalité, si on prend une règle simple, je peux prendre une règle simple pour que vraiment tout le monde comprenne. Lorsque vous avez une dette, en moyenne, qui représente une année de chiffre d'affaires, un plan de redressement arrive à étaler cette dette sur une période de 10 ans. Mmh. C'est-à-dire que chaque année, vous rembourserez à peu près 10% de votre chiffre d'affaires. Oui. Mais quand vous avez cette dette qui fait une année de chiffre d'affaires, et que vous avez en plus un PGE qui représente aussi, disons, une année de chiffre d'affaires, ça vous fait 2 années de chiffre d'affaires. Et sur 10 ans, vous êtes à peu près incapable de supporter chaque année en termes de remboursement à peu près 20% de votre chiffre d'affaires. Vous n'en avez pas les marges, vous n'en avez pas la capacité.
Donc il y a une vraie raison quand même.
Donc il y a une vraie logique. Mmh. Moi j'avais plaidé depuis longtemps auprès de diverses personnes du monde politique pour convertir ces PGE en fonds propres. Mmh. Bon, ça n'a pas été fait. Ça aurait pu être fait avec l'aide des fonds d'investissement, ça n'a pas été fait.
Donc ça reste une vraie préoccupation des chefs d'entreprise.
Donc c'est aujourd'hui un élément de passif qu'il convient de qui contribue à la fragilisation des entreprises.
Et puisqu'on est sur l'interrogation de savoir si on va baisser les taux, les banques centrales vont baisser les taux ou pas, est-ce que cette hausse quand même très dure des taux d'intérêt, est-ce que ça a eu un impact direct sur la santé des entreprises que vous observez encore une fois au tribunal de commerce de Paris?
Encore une fois, je ne suis que juge, et je ne suis qu'un observateur.
Non, mais d'où vous êtes?
Peut-être averti, mais je ne suis qu'un observateur. Il va de soi que tout ce que je vous dis sur le secteur de l'immobilier est très largement en fonction à la fois des difficultés qui ont pu être observées sur un certain nombre de marchés, notamment le marché du bureau, qui vit en fonction du poumon économique de la société, mais sur le secteur du logement, il y a un certain nombre d'acquéreurs qui n'ont plus trouvé de crédit compte tenu de la hausse des taux et de ce que ça représentait par rapport à leurs charges mensuelles et leurs revenus mensuels.
Alors le dernier point, la dernière étape, si j'ose dire, c'est tout ce qui touche au redressement, aux liquidations judiciaires. La hausse là est très spectaculaire. Quand on regarde toujours sur le tribunal de commerce de Paris, c'est 4109 liquidations contre 3082. Et pour les liquidations, c'est 3400 sur un an, donc c'est quand même beaucoup plus que L'année d'avant. Comment vous expliquez ça?
Ben, c'est toujours ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire ce phénomène de rattrapage et du fait que et les URSSAF et le trésor public vient plus souvent. Mais dans ces statistiques, moi, je vois une bonne nouvelle. Ah. Alors, vous me direz que je suis peut-être un optimiste.
Ah, parce que pour ceux qui regardent la télévision, lorsqu'on voit votre graphique, c'est quand même assez impressionnant.
Je suis peut-être un optimiste convaincu, mais pourquoi? Parce que je vois que les redressements montent plus que les liquidations. Ouais. Ça veut dire, d'une certaine manière, pour qu'un redressement fonctionne, ça veut dire qu'au moment où on ouvre la procédure, on considère que la société peut faire face avec son résultat courant à ses charges courantes. Donc, je dirais, il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Avec les liquidations, on sait qu'on n'y arrivera pas, et d'où cette sortie si dure et si triste.
Est-ce que les banquiers sont, encore une fois, ils sont très durs en termes de liquidation ou de redressement judiciaire? Est-ce qu'il y a un changement?
Ni plus ni moins.
Non.
Ni plus ni moins.
Vous n'observez pas un changement d'attitude?
Je ne crois pas qu'il soit de bon ton de diaboliser les uns ou les autres. Ils font leur travail. Et... Non.
Non, mais parce que vous avez eu à gérer quelques gros dossiers.
Oui, mais.
Casino, par exemple, Orpea. Quel est votre rôle dans ces cas-là? Alors, vous, en tant que président du tribunal de commerce, surtout Casino, c'est on parlait de tiroir tout à l'heure, là, je veux dire.
Alors, ce qui me rassure, c'est qu'en tant que président, j'en ai aucun.
D'accord. Ah bon.
J'en ai aucun. Non, mais il y a une règle qu'il faut que les téléspectateurs ou les auditeurs connaissent. C'est le principe de l'indépendance des juges. On en parle, mais c'est pas un principe fantaisiste. C'est-à-dire que chaque formation de jugement qui est nommée, c'est-à-dire 3 voire 5 juges, ils gèrent leur dossier dans le secret de leur délibéré. Et ils décident dans le secret de leur délibéré. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des occasions d'échanger. Mais je n'ai ni de près ni de loin des conseils ou des instructions à leur donner. Donc chacun gère. Donc la procédure Casino, j'en ai vu le résultat, je l'ai connu, ça nous inspire des réflexions qui sont en ce moment...
Mais j'imagine que c'est un dossier aussi politique, et en plus avec des conséquences sociales énormes, vous ne pouvez pas rester complètement en dehors du dossier, non? Vous devez avoir plein de coups de téléphone.
Non.
Non ?
Heureusement pas. J'en ai eu un seul, d'une personne sans importance, qui, à mon avis, ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais heureusement, nous avons en réalité, nous juges, très peu de pression. Et je pense que c'est comme,
vous êtes des juges bénévoles, souvent c'est des chefs comme vous, des chefs d'entreprise.
Mais qu'on soit bénévole ou pas bénévole.
Alors, est-ce que vous êtes compétent? Pardon, on vous pose une question aussi cache. Hein. Non, mais est-ce que vous avez les moyens d'être compétent? De passer d'Orpea à Casino, à une PME qui fait du pressing, ou alors un office notarial? Vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un juge? C'est quelqu'un qui a d'abord une compétence métier. Mais donc qui est un commerçant et qui connaît la comptabilité, qui connaît les problèmes des commerçants. Ouais. Ensuite, c'est quelqu'un qui est formé. On est soumis à une formation qui est dispensée par l'ENM.
Ouais.
Et on est Non. Vous faites une moue. Ouais. Je vous permets pas, cher Edwige Chevrillon, de faire cette moue dubitative. On a une formation initiale, on a une formation continue. Je suis moi en train de pousser à des formations de perfectionnement. Le niveau de qualité du tribunal est excellent. Nous avons, tenez-vous bien, je vous parlais de qualité. Nous avons seulement 2% d'infirmation de nos décisions.
D'accord.
Ça veut dire que notre justice est prévisible à 98% des cas, et ça, il faut le retenir.
Toute dernière question, Patrick Seyer. Il y a beaucoup d'entreprises, enfin certaines, qui à la limite préfèrent payer des pénalités plutôt que de publier, alors que c'est obligatoire, leurs chiffres, leur statut au tribunal de commerce de Paris, au greffe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer là-dessus?
Beaucoup de choses qui seraient à changer dans la loi.
Mais là-dessus, sur ce point-là.
Ça me paraît aller de soi. Mais à contrario, si je peux terminer là-dessus, il faut qu'on fasse très très attention. Nous sommes en ce moment en train de donner, par la transparence de nos décisions, ce qu'on appelle l'open data des décisions de justice, nous sommes en train de donner, et avec l'utilisation d'intelligence artificielle, ça nous ferait peut-être un autre sujet de débat, mais nous sommes en train de donner des données très sensible sur nos entreprises à des personnes moins bien intentionnées d'autres pays.
L'espionnage économique, c'est en
tout
cas.
Donc attention à la transparence, mais c'est vrai que les comptes, il faudra les publier.
On sait que c'est un point sur lequel les autorités travaillent beaucoup. Merci beaucoup Patrick Seyer d'être venu ici.
Merci, Vichy.
Bah, quand même, finalement, vous êtes plutôt, je dirais pas optimiste, mais en tous les cas, pas trop inquiet. C'est déjà la bonne nouvelle.
À peu près.
Merci beaucoup, en tous les cas, pour ce qui concerne le premier trimestre 2024. Merci d'avoir été avec nous. Le président du tribunal de commerce de Paris, tout de suite, Guillaume Paul, nous apporte l'essentiel de l'écho.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, on est reparti. Nos experts sont là jusqu'à 20h. Audrey Tcherkov est avec nous. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à
bon
tous.
Bon retour parmi nous.
Merci beaucoup.
Nathalie Janson, Neoma Business School qui va arriver dans un instant. Les bouchons parisiens, on sait ce que c'est. Edwige Chevrillon qui reste avec nous. Rebonsoir Edwige.
Il est à son poste.
Exactement.
Bonsoir Guillaume.
Avec moins de bouchons, vraiment, était là. Beaucoup de choses ce soir. Oui. Alors, un mot quand même de ce que nous disait Patrick Sayer, le président du tribunal de commerce de Paris. On avait ces chiffres qu'on rappelle rapidement du cabinet Altares qui nous disait la semaine dernière, bah voilà, on va terminer l'année 2024 avec aux alentours de 64 000 défaillances d'entreprises. On est un petit peu en dessus du rythme de croisière. Qu'est-ce qu'il en dit, Patrick Sayer, lui?
Alors, lui, en fait, c'est sur le. D'abord, un, c'est sur Paris. Alors, même si Paris, c'est le plus gros tribunal, évidemment, de commerce, avec après, il y a Nanterre, parce qu'il y a quand même beaucoup de sièges, comme vous pouvez l'imaginer, les sièges sociaux. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, alors, il se félicite au moins une chose, parce qu'il faut bien regarder le bon côté, le verre à moitié plein, c'est que tout ce qui concerne les procédures préventives, donc avant le redressement judiciaire, avant la liquidation, eh bien, sont en hausse. Ça veut dire que, quand même, ils arrivent à trouver des solutions, à négocier pour trouver, pour que l'entreprise puisse repartir, quitte ensuite à ce que ça aille vers un redressement judiciaire, une liquidation. Mais visiblement, il n'y a pas trop de lien. En tous les cas, c'est ce qu'il disait.
On a moins peur d'aller solliciter la justice, de prendre les devants.
Voilà, absolument. Moi, j'ai trouvé deux choses intéressantes. Alors, non, le nombre de liquidations est quand même assez spectaculaire. Ils trouvent que ça va mieux. Non, c'est le fait que les... Pourquoi c'est toutes ces procédures de redressement? Pourquoi ces liquidations? Eh bien, c'est que l'État, les impôts, l'URSSAF, sont redevenus très durs après la crise de la Covid, où ils étaient quand même un peu plus souples. Donc, ça, ce qui provoque cette hausse de défaillances d'entreprises. Et puis, la question de taux d'intérêt et donc des PGE. Il nous a dit quand même, pour bon nombre d'entreprises, alors évidemment pas les plus grandes, ça représente une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Et donc, ça provoque ces situations. Et c'est là où on essaie de trouver des solutions. Lui-même, il avait plaidé auprès des pouvoirs publics pour qu'il y ait une transformation de ces PGE
en fonds propres,
fonds propres ou en quasi-fonds propres. Il n'a pas été suivi.
Non, mais bon, enfin quand même, moi j'ai entendu à votre micro, Edwige, un président du tribunal de commerce de Paris assez confiant. Je ne l'ai pas trouvé inquiet. En revanche, il a quand même mis l'accent sur le secteur de la construction qui est en crise. C'est ce qu'on dit tous les soirs depuis des mois.
Hein. Oui.
Mais ça, c'est une première des défaillances du côté des notaires. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, oui, c'est clair, et des mesures à prendre, en tout cas concernant le secteur de l'immobilier, pour venir en aide à l'économie tout entière.
Oui, mais c'est ce que, du reste, c'est la réflexion que je lui ai faite, hein, c'est de dire qu'on voit bien qu'une défaillance, entre guillemets, hein, bien sûr, de l'État, en fait, ce dérapage des finances publiques, c'est en grande partie dû à la baisse de la chute de la construction et des ventes dans l'immobilier. Oui. Impact aussi pour les mairies, les collectivités locales. Lorsque vous regardez le budget de la mairie de Paris, l'impact est colossal avec la baisse des droits de mutation. Oui. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, l'impact sur les notaires, pour être très franche, je pense que c'est la première fois que j'entends ça.
Oui, moi aussi.
Qui le crut il y a encore 2-3 ans de voir des notaires faire
ça. En général, on voyait plutôt les notaires avec des grands charges de notaires.
C'est une première. Oui. Et puis, on rappelle aussi ce chiffre que je n'avais pas en tête. Le tribunal de commerce de Paris, c'est 180 juges totalement bénévoles.
Ah, c'est complètement bénévole, absolument. Et puis, chacun est sur sa ligne de trail, si j'ose dire, c'est-à-dire personne ne s'occupe du dossier voisin, même si c'est plus compliqué. Le dernier point, parce que je pense que c'est un sujet dont on va entendre beaucoup parler, je le disais parce que nous, ça nous énerve en tant que journaliste de voir qu'il y a des tas de sociétés qui ne publient pas leurs comptes.
Et le manque de transparence.
Au tribunal de commerce, alors que normalement, c'est obligatoire. Ils préfèrent payer plutôt que de publier leurs chiffres. Et ils disaient, oui, vous avez raison, on plaide, on essaie de faire changer les choses, mais attention, il faut quand même voir que c'est une mine pour des gens pas forcément très bien intentionnés, que ce soit des concurrents, mais surtout des concurrents étrangers. Ça s'appelle l'espionnage économique, et absolument. Ça, c'est notamment avec tout ce qui se passe, avec les développements des technologies, de l'IA, ça va être un vrai, vrai dossier.
Voilà. Et oui, à suivre.
Patrick Sayer, donc président du tribunal de commerce de Paris, qui était avec vous il y a quelques minutes.
Et Nathalie Janson nous a rejoint pour aborder la grande question que l'on va se poser ce soir. La situation au Proche-Orient va-t-elle de nouveau
dérapé. Alors, est-ce qu'Israël va riposter à l'attaque des drones de missiles iraniens qui ont lieu ce week-end? En tout cas, les marchés ne semblent pas croire à l'escalade.
Ben non, on a vu la Bourse de Paris terminer en léger hausse. On est en hausse à Wall Street. Sur le pétrole, on est redescendu en dessous des 90 dollars. Ouais. Ça s'est détendu aussi sur le gaz. On est en ligne avec Thierry Bros, spécialiste des questions énergétiques, professeur à Sciences Po. Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous quelques instants. Les marchés, pour l'instant, ne semblent pas croire à l'escalade. Peut-être c'est Mathieu Pechberti qui nous disait, bah, finalement, sur le plan énergétique, l'Iran n'est peut-être pas un game changer, n'a peut-être pas la possibilité de peser vraiment sur le cours des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que si on s'attaquait à la production pétrolière en Iran, oui, ça serait un game changer. Mais on n'imagine pas Israël s'attaquer à cela. Et donc, pour le moment, les marchés sont bien approvisionnés. L'Iran, c'est 3 millions de barils par jour de production. Et rappelons que la capacité résiduelle inemployée au sein de l'OPEP, c'est de l'ordre de 3 millions de barils par jour. Donc, même si, dans le pire des scénarios, il y aurait un problème en Iran, on serait en capacité de remplacer ces volumes, mais à des prix très élevés.
Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ni la guerre entre le Hamas et Israël, ni les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge, finalement, n'ont eu d'impact sur les perspectives économiques mondiales. Alors, est-ce que ça veut dire que les marchés anticipent à chaque fois ?
Je pense que ça n'a eu aucun impact sur l'énergie, c'est ça qu'on regarde. Parce qu'ensuite, l'impact sur l'économie, c'est en deuxième ordre. S'il y avait eu une baisse de la production, regardez en Russie, quand l'Ukraine attaque les raffineries russes, les Américains ne sont pas très contents parce que ça fait monter les prix. Donc je pense que l'économie est de deuxième ordre. Le premier ordre, c'est la production effective de barils de pétrole et pour le moment, rien n'a été affecté.
Est-ce que vous croyez à la menace agitée par les Iraniens d'un blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite, on le rappelle, environ 20% du pétrole consommé quotidiennement et 25% du GNL? Ça n'est jamais arrivé. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que pourraient éventuellement envisager les Iraniens? Ou alors est-ce qu'on est dans l'intox ?
Non, je pense qu'on est un peu dans l'intox parce qu'il faut quand même voir que les trois mousses, c'est essentiel pour l'Iran. Oui. 3 millions de barils par jour, c'est 270 millions de dollars de revenus par jour pour l'Iran. Donc arrêter ces volumes-là, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Iran. Je rappelle que l'Iran est arrivé à contourner ou à se faire arriver à vivre avec les sanctions américaines et que l'Iran aujourd'hui produit plus de barils que ce qu'il produisait pendant la présidence Trump.
Nathalie Janson.
Oui, je pense qu'effectivement, les marchés voient bien que, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de signal alarmant qui ferait peser des menaces sérieuses sur l'approvisionnement de pétrole. Ou alors, effectivement, s'il y a des effets, c'est plutôt escompté comme des effets temporaires. Voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, les marchés ne sont pas inquiets. En plus, étant donné que l'attaque a été largement détournée, on ne sait pas, voilà, oui. C'est moins dramatique que s'il y avait eu des conséquences négatives sur Israël au départ. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui on ne peut pas non plus anticiper le pire compte tenu de la situation.
Un peu d'effervescence vendredi sur le pétrole et le gaz, mais ça c'est très vite retombé. Edwige,
ça montre quand même que ce sont les marchés sont des fins observateurs de la géopolitique, parce qu'on voit bien que ça est assez, pour l'instant évidemment, contrôlé. Que certes il y a une riposte iranienne, mais ils avaient prévenu, tout était un peu téléphoner en disant voilà, on va faire ceci, on va faire cela, donc ils ont pu se défendre, Israël a pu se défendre, donc il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu tellement de dégâts, parce que la France, tout le monde a aidé effectivement Israël, mais c'est quand même assez contenu pour l'instant, et c'est pour ça que les marchés sont plutôt rassurés. Ils attendent de voir que pour l'instant il n'y a pas d'impact sur le pétrole, après ça peut dégénérer. Mais jusqu'à présent, j'ai envie de dire, so far, so good.
Oui, absolument. Et puis c'est vrai que concernant la réponse de la défense israélienne, c'est considéré, en tout cas de la part de la communauté internationale, comme une victoire. 98% des missiles déjoués. Et précisément, la communauté internationale ne veut pas de riposte à la riposte. Thierry Bros, est-ce qu'on peut imaginer que l'affaire soit close?
C'est une question géopolitique, mais moi je pense que Israël n'a aucun intérêt à répondre en s'attaquant à des sites de production énergétique en Iran. On peut imaginer d'autres cibles. Et donc, pour moi, le pétrole a plutôt tendance à rester dans son range de 80-90 $ par baril, qui est l'optimum et pour l'OPEP et pour l'intégralité des autres producteurs et aussi pour les consommateurs qui sont malheureusement arrivés à vivre avec un pétrole plus élevé.
Non, juste ce qu'il faut bien voir, c'est que s'il y a un embrasement, c'est-à-dire que si Israël répond à l'Iran qui va répondre, s'il y a un embrasement de la région, qu'on pourrait redouter, vous imaginez, l'Arabie Saoudite va rentrer en ligne de compte, la Turquie, enfin là, à ce moment-là, on va vraiment vers une troisième guerre mondiale. Enfin, on va dire, c'est vraiment quelque chose d'extrême comme scénario.
Pour l'instant, en tout cas, stabilité sur les marchés, pas d'embrasement. Merci beaucoup Thierry Brosse, merci d'avoir été avec nous quelques instants ce soir, spécialiste des questions énergétiques, professeur à Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business, 18h45. Nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques, ça n'a pas échappé à Emmanuel Macron qui était donc ce matin sur le plateau de BFM TV. Évidemment, beaucoup de questions lui ont été posées et évidemment, cette question lui a été posée. D'éventuels mouvements de grève peut-il perturber le bon déroulement de la compétition?
Sachant que la CGT a déposé des préavis à partir de ce lundi 15 avril, mais Emmanuel Macron, de son côté, ne veut pas y croire. On écoute tout de suite.
Je dis aux syndicats, on va tous être vigilants, mais on va montrer que la France sait accueillir un grand événement, se mobiliser, en étant exemplaire sur le plan du droit du travail, de la sécurité au travail, de la qualité au travail.
Donc il n'y aura pas de raison. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y aura pas de raison de faire grève, quoi.
Et donc, oui, à la trêve olympique.
Non, mais là, on parle de
prime. En matière sociale. Et donc, en vrai, la France, c'est une équipe, c'est une nation unie. Et donc, on est au rendez-vous de cette exemplarité. On va l'être jusqu'au dernier moment. Et moi, j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité. Ils seront à nos côtés.
Mais est-ce que ce n'est pas de la négociation tout ce qu'il y a de plus classique? Parce que l'objectif, c'est quand même pas de bloquer la France tout l'été, mais simplement d'obtenir des concessions d'ici au mois de juillet. Nathalie Janson.
C'est clairement une façon de dire. Vous allez quand même pas nous, on va quand même pas avoir la honte à cause de vous, en faisant reposer la responsabilité sur chacun de ceux qui seront, qui auraient envie de se joindre au mouvement. Voilà, en fait, il fait peser la responsabilité morale et donc il fait appel un peu à l'esprit, patriote, en disant on a un événement exceptionnel, il faut que cet événement reste dans la mémoire de chacun. Si vous faites ça, vous allez tourner ça en cauchemar. Est-ce que c'est ce que vous voulez?
Pour l'instant, seule la CGT et FO ont déposé des préavis de grève. La CGT, pour l'instant, a dit non. Nous, on respecte la trêve. Pour l'instant, respecte la trêve.
Pour l'instant, il faut voir. Il y a, je crois, une charte sociale qui a été signée en fait entre les différents partenaires sociaux pour que les Jeux Olympiques se passent bien. Et puis surtout, c'est que les gens soient traités en échange, correctement pour ceux qui collaborent aux Jeux Olympiques. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu. Donc les entreprises ont signé, tout le monde a dit que c'était formidable et que tout allait bien se passer. Mais ce qui n'est pas prévu, c'est que là, le préavis de grève, ce sont les fonctionnaires.
Oui.
Donc ce n'est pas les salariés des entreprises, ce sont les fonctionnaires. Et alors c'est là où ça, ce n'était pas prévu.
C'est ça, exactement. Oui. Et c'est bien c'est pas pour la ça même que je parle de concession, parce que en fait, les demandes, vous le disiez, de la CGT et de FO, ça concerne qui? Ça concerne les douaniers, ça concerne les éboueurs ou les salariés de l'hôpital public qui
ont fait les Sophie Binet, elle a bien dit, c'est les fonctionnaires.
Voilà. C'est ça, vont être mobilisés 7 jours sur 7. Et c'est pour ça que c'est de la négo tout ce qu'il y a de plus classique, avec trois objectifs de la part des partenaires sociaux. Un, plus de recrutement, des compensations financières, et puis des aménagements pour la garde d'enfants. On peut imaginer que l'État va céder sur certains de ces points.
Il y a déjà
des primes qui ont été prévues par Stanislas Gasperini.
Oui.
Bon, ce que je dirais juste, alors je sais bien qu'il y a une échéance importante pour l'agence de notation le 27 avril. Oui. Mais bon, ce qu'il a agité en parlant de licenciement économique, ça ne touche que très peu de fonctionnaires. Enfin, c'est quelques pourcents. C'était un petit peu absurde.
Le fait est qu'il a fait cette sortie quelques heures seulement avant que la CGT annonce qu'elle déposait des préavis de grève, effectivement.
Bon, parfois, il fait des mauvais timings.
À partir d'aujourd'hui, ils sont déposés ces préavis de grève.
C'est vrai que parfois, je ne sais pas pourquoi il va sur des sujets comme ça qui ne représentent rien et qui peut énerver.
Erreur de com.
Erreur de com, parce que c'est une petite phrase qui a été reprise, qui est partie en boucle.
Oui.
On connaît bien l'exercice médiatique. Visiblement, il le connaît un tout petit peu moins bien.
Qui a fait beaucoup de bruit.
Vous l'avez trouvé enthousiaste, globalement, Emmanuel Macron, ce matin, une heure d'interview. interview sur BFM TV à 100 jours des Jeux Olympiques.
RMC, parce qu'il y avait tous les sportifs, il y avait tous les sportifs qui étaient là.
Vous l'avez trouvé comment, enthousiaste ou pas plutôt?
Oui, moi plutôt, je trouve qu'il donne plutôt...
Malgré bien des incertitudes, évidemment.
Oui, je trouve qu'il y a des incertitudes, mais il a raison quelque part en disant, écoutez, quand il y avait une jeune femme qui disait, moi j'ai pas envie que mon fils y aille pour des questions de sécurité, il lui disait, mais vous savez, c'est un truc qui n'arrive que tous les 100 ans. Donc, il faut quand même vivre des événements exceptionnels et savoir se surpasser. De ce point de vue-là, moi, je trouve qu'il avait assez raison, le président.
Je suis assez d'accord.
Oui, il était assez. J'ai trouvé qu'il était plutôt positif.
En même temps, heureusement.
Oui, et de toute façon, oui, comme on vient de le dire, comme il veut absolument que ce. Je pense que lui, personnellement, il veut absolument qu'on se rappelle de lui comme ayant fait des Jeux Olympiques.
C'est un grand moment pour ça qu'il veut
ouvertement sur la scène. Vu son envie de rester dans l'histoire, il n'y a aucun doute là-dessus.
Il aurait presque fallu que les Jeux se déroulent maintenant, que ça se passe bien, et qu'ensuite seulement les agences de notation finalement.
Voilà, on aurait dû déplacer les agences de notation. Je sais pas,
c'est bien quoi, il ne l'a pas fait. C'est bien pour ça qu'on n'aura pas un projet de loi de finances rectificative.
Ah, non, pas avant.
Et qu'il y a eu tout ce psychodrame entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, parce que justement, lui, il dit stop à l'anxiété sur la question des finances publiques, qui après tout n'est pas si grave que ça. Ouais. Alors que Bruno Le Maire, lui, il veut pas rester comme le ministre des Finances, le ministre de la République.
Cette semaine, c'est sûr.
Voilà, pas drôle.
Allez, rapidement, dernier sujet. L'autre personne qui restera aussi peut-être dans l'histoire, c'est Carlos Tavares. Alors, sur un autre sujet, sur celui de sa rémunération. Oui, c'est ça. Donc, demain, journée agitée chez Stellantis. C'est le jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui vont devoir statuer sur sa rémunération. Elle fait débat puisqu'elle pourrait atteindre, Guillaume, jusqu'à 36,5 millions d'euros.
Sur l'année 2023, c'est trop. Pour moi qui le dis, c'est ce que disent trois sociétés de conseil aux actionnaires qui appellent clairement à voter contre demain, dont le groupe Proxinvest. Écoutez son directeur général Charles Pinel. Il nous expliquait ce matin sur BFM Business pourquoi lui votait non, en tout cas. Écoutez.
Par les rémunérations des dirigeants du CAC 40, entre autres, la médiane elle est à 5 millions. Donc, vous voyez, avec nos calculs, il est très très au-dessus. Au niveau européen, on compare également par rapport au secteur industriel, donc par rapport au secteur automobile et aux équipementiers automobiles. Et de la même façon, il est sensiblement au-dessus, puisque on est dans un rapport de 1 à 3, 3,5 fois. Aux États-Unis, les montants sont bien plus élevés. En moyenne, on est à peu près à 15 millions de dollars. Donc, vous voyez, par rapport aux 5 millions que je vous indiquais pour le CAC 40. Donc, on est à un rapport de 1 à 3. Et effectivement, Stellantis argumente, depuis le rapprochement entre Fiat et Peugeot, que 48% de leur chiffre d'affaires est aux États-Unis. Donc ça s'entend. Après, pour moi, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut faire des sociétés qui sont quand même européennes, Stellantis, il est de droit néerlandais. C'est une société de droit néerlandais. Est-ce qu'on veut importer en Europe les pratiques américaines?
Non, mais l'autre question, c'est est-ce que le montant qu'il va percevoir correspond à ce qu'il rapporte en entreprise? Je vous rappelle que Stellantis, c'est 18,6 milliards de bénéfices en 2023. C'est quasiment le plus gros bénéfice du CAC 40.
Non, oui, mais surtout, c'est que, parce que là, on n'est plus dans le CAC 40. Enfin, c'est bien qu'on est en France, donc
on
est dans
le CAC 40. On a dépassé les frontières, là.
Mais effectivement, c'est devenu un groupe américain.
Oui.
C'est le meilleur taux de marge dans les constructeurs automobiles, c'est 12,8% de mémoire.
Oui.
Ça, en tous les cas, c'est sur 2023, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Donc, et puis qu'en plus, il y a une structure qui fait, comme ils avaient mis la barre très très haute, la part variable, entre guillemets, qu'aurait pu toucher, par exemple, d'autres, ou qu'ont pu toucher d'autres constructeurs automobiles, qu'ils soient allemands ou français.
Jusqu'à potentiellement 36 millions et demi.
En fait, ils n'auraient quasiment rien touché. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation.
Oui, et puis la part variable, elle est liée aux objectifs.
Oui, mais là, il n'y a pas qu'une partie part variable. Il n'y a pas qu'une partie part variable dans ces 36 millions.
Non, bien sûr. Donc, il y a du variable, il y a du lié au plan de transformation, il y a du fixe, il y a du bonus, il y a du plan de retraite.
Oui, c'est un succès. Enfin, il faut. Je ne plaide pas pour Carlos Tavares. C'est-à-dire, il faut se souvenir quand même de dans quel état était PSA. Il faut quand même voir dans quel état était Fiat.
Il y a 10 ans,
Fiat, même encore récemment. Donc, il a réussi une transformation, à mon avis, spectaculaire.
Il a sauvé l'entreprise.
Après, il y a un corps social qui existe, qui participe à cette transformation, et que là, on atteint peut-être les limites de l'acceptation. La précédente augmentation avait été acceptée. Là, évidemment,
ça avait été accepté, mais ça avait aussi un peu grincé des dents.
C'est vrai qu'il faut se rappeler ce qu'était PSA il y a 10 ans, quand les Chinois sont venus à la rescousse. Effectivement, c'était une
autre histoire.
Nathalie, et l'État, bien sûr.
On revient dans l'éternel sujet. On adore ça en France. Je pense que c'est très hexagonal quand même comme débat, parce que en effet, je veux dire, Carlos Tavares, il n'est pas dans la cour des dirigeants du CAC 40 français. On le sait bien. Enfin, je veux dire, voilà, vous l'avez, ça a été dit. C'est un groupe mondial. Il opère au niveau mondial et
pays.
Comme d'autres voilà, mais comme d'autres aussi. Mais effectivement, ouais, il est dans la course des dirigeants mondiaux. Donc effectivement, dans cette course-là, il y en a d'autres qui gagnent moins que lui, mais il y en a d'autres sans doute qui gagnent également plus
ça,
que lui.
Oui, c'est ça. Parce que si on compare Nathalie aux rémunérations des grands dirigeants américains, son package, on est quand même très loin.
Oui, il y a d'autres qui gagnent plus que lui, en effet. Donc c'est pour ça que on se fait toujours du mal. Et moi, je trouve que c'est un petit peu dommage que effectivement, des personnes comme celles qu'on vient d'entendre aussi abondent en fait à ce raisonnement. Parce
c'est Proxinvest, hein, ils font.
Oui, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on a toujours cette image qu'effectivement, un dirigeant d'entreprise internationale, où effectivement, ils sont très peu. Enfin, on est dans de la spécificité, on est dans du fait sur mesure. Il n'y a pas, effectivement, après, on ne sait pas où il ira, mais lui non plus, il n'a pas des opportunités de job immenses après.
À ce niveau-là, en France, ça c'est clair.
Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des personnalités très particulières qui ont dirigé des groupes, qui ont eu du succès. Voilà, lui, il a été l'élève
de Carlos Ghosn.
Voilà, de Carlos Ghosn, donc on voit bien d'où il vient. Et effectivement, c'est des personnalités qui, on a du mal à leur mettre un prix. Ils n'ont pas un prix de marché, ça n'existe pas un prix de marché. C'est un prix personnalisé, c'est un prix qui est hors norme. Voilà.
En même temps, les montagnes ne vont pas jusqu'au ciel.
Non.
Ah bah là, ça atteint des cimes.
Et ce sont les actionnaires qui trancheront, en tout cas.
Exactement, en tout cas, c'est sain que les actionnaires tranchent.
Non, c'est consultatif.
Oui, mais en général, quand même, bon.
On a vu ça pour bon nombre de sociétés du CAC 40. Ouais. Et là, pour le coup,
heureusement d'ailleurs.
Il y aura un message.
Il y a un message.
Il y a un message qui sera passé.
Très fort. Bien, on en reparlera tout à l'heure. Nathalie, vous revenez avec nous dans un petit quart d'heure avec nos experts sur BFM Business, bien sûr. Edwige, on se retrouve demain.
Demain, je recevrai. Alors, c'est un des meilleurs. Il est assez clivant. Hein. C'est des meilleurs spécialistes de l'Iran. Et pourquoi? C'est un franco-iranien. C'est Ardaban Amiraslani, avocat qu'on a connu, parce qu'avocat aussi des stars de Laetitia Hallyday, c'est lui qui règle la succession Pierre Cardin. Mais il a toujours des propos très forts et très intéressants sur l'Iran.
Il sera demain à votre micro à 18h10, 18h57. Nous on revient dans un instant, là jusqu'à 20h.
Et oui, en direct, ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.